Zaï Zaï, la radio.
Bonjour Francesco.
Bonjour Émilie.
Alors Francesco, c'est un peu particulier, le studio de Zaï Zaï Radio est installé depuis la rentrée dans l'espace de coworking de la drôle d'épicerie Place du Palais à Angoulême. Et Francesco, toi tu étais là avant qu'on arrive, qu'est-ce que tu fais dans l'espace de coworking?
Ben, moi je suis là depuis 2 ans presque et je m'occupe de la logistique dans une ONG. Qui est établi aux États-Unis. En fait, on est un peu partout dans le monde et on travaille. On est en télétravail depuis toujours. Et du coup, là, moi, je m'occupe d'organiser des événements ailleurs en France ou dans le monde, de soutenir des équipes qui sont peut-être au Brésil ou en Allemagne. Et c'est un travail qui change beaucoup. Toutes les semaines, on fait quelque chose de différent, des actions publiques ou des plaidoyers ou avec les médias. Et du coup, d'une semaine à l'autre, je change un peu complètement ce que je suis en train de faire. Je travaille avec une équipe internationale et ça me travaille les langues. Et voilà, du coup, on passe des époques à la drôle d'épicerie. Et cette année, on a la chance d'avoir Radio Zaï Zaï ici, on est très contents.
Alors, nous, on a l'habitude de t'entendre parler en français. En anglais, en italien, on aura compris que c'est plutôt l'Italie ta patrie de cœur, plus que de cœur d'ailleurs. D'où est-ce que tu viens en Italie?
Alors moi je suis né à Milan, mais j'y ai vécu 4 ans. Et après mes parents ils ont déménagé juste 15 km au nord, dans une petite ville à côté de Milan, mais qui n'est pas si petite, elle est plus grande qu'Angoulême en fait, elle s'appelle Monza, assez connue pour la Formule 1 malheureusement. Mais aussi, on a aussi d'autres choses intéressantes dans la ville. Notamment l'un des plus grands parcs citadines d'Europe.
Un poumon vert au cœur de la ville.
Oui, à moitié occupé par la piste de Formule 1. Mais...
Ah oui, alors le poumon vert, il est peut-être un peu moins vert, ouais. Tout de suite.
C'est ça.
La tradition culinaire en Italie est extrêmement forte. On a cette image de transmission entre les grands-mères. Voilà. Toi, aujourd'hui, est-ce que c'est à la maison? Est-ce que tu cuisines beaucoup? Est-ce que tu as embarqué dans tes valises aussi toute cette richesse culinaire-là? Et est-ce que tu en es un nouveau passage de génération en génération en étant ici? Est-ce qu'on cuisine encore italien à Angoulême?
Oui, décidément. En fait, moi, dans mes années étudiantes et quand j'habitais ailleurs en Italie, j'ai perfectionné un style de cuisine que j'appelais mélange ce que tu trouves dans les frigos.
C'est un peu la tradition estudiantine.
Oui, ça dépasse les frontières. Par contre, depuis que je suis en France, c'est vrai que j'ai retrouvé un peu un goût de... J'ai développé un goût d'expat ou de migrant, si tu veux. Avec la musique, avec d'autres choses, avec le cinéma italien, j'ai récupéré plein de choses et avec la cuisine aussi. Et moi, j'ai la chance d'avoir deux parents qui me soutiennent beaucoup, qui viennent souvent me voir, ou plutôt voir leur petite fille. Et dans la valise, il y a toujours de la place pour l'huile, pour le fromage, pour la pâte. Du coup, c'est vrai que j'ai aussi ces soutiens-là. À la maison, tous les deux, ils cuisinaient beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup cuisiner, mettre de la belle musique et cuisiner pendant qu'il y a un bel air de famille dans les salons. J'aime bien ça, dédier un peu de temps à la cuisine, alors que dans les quotidiens, on n'a pas souvent le temps de faire ça.
Est-ce qu'il y a une cuisine vraiment par région en Italie? Est-ce que vous avez des habitudes, des ingrédients qui reviennent de façon récurrente? Alors sur la région de Milan, quel était ton souvenir de cuisine qui est revenu très souvent en te disant « Oh non, pas encore ça, maman ou papa ».
Je dirais plus que régional, on a souvent des cuisines provinciales, encore plus petites que la région, souvent comme les dialectes en fait. L'Italie est très structurée par tradition, très locale. au point que les rivalités les plus exacerbées sont entre deux villes à côté de l'une de l'autre, encore plus qu'entre régions. Et moi, j'ai grandi avec, comme je disais, une cuisine centrée sur la santé, les bons produits. Mes parents, ils étaient à fond sur les bio déjà dans les années 80. C'était un peu des précurseurs, si tu veux. Et je n'ai pas souvenir d'avoir rejeté quelque chose en cuisine. J'ai grandi dans l'idée que c'était la meilleure cuisine du monde, l'italienne et celle de ma famille.
En particulier.
On a aussi beaucoup voyagé, du coup j'apprécie aussi les autres cuisines, mais j'en vois toujours la différence avec l'italienne. Je pense que l'huile, c'est l'élément essentiel. En arrivant en France, j'ai remarqué que vous mettez le beurre un peu partout. Et c'est bien, hein, le beurre, c'est pas mal. Mélanger avec l'huile, c'est encore mieux. Et dans les conversations, je me suis un peu rendu compte que les Français, beaucoup de Français, ils ont l'idée que le beurre, c'est plus sain que l'huile. Et ça m'étonne un peu comme position, mais je comprends. Après, la tradition, c'est comme ça. Et en plus, pour préparer cette interview, je suis allé voir quelques extraits de la cuisine traditionnelle italienne, ce qu'on considère la cuisine traditionnelle italienne, et j'ai retrouvé que les beurres aussi, il y avait en place. Du coup, c'est intéressant pour moi de découvrir cette autre facette.
Alors, je crois que tu es arrivé avec plein de choses à nous faire partager. Peut-être qu'on peut commencer par... Est-ce que tu veux commencer par une recette ou par un petit texte pour qu'on l'entende en langue originale ?
En fait, moi, je voulais vous parler de risotto à la milanaise. C'est un risotto au safran avec lequel j'ai grandi. C'était très présent dans la... C'était pas toutes les semaines, mais c'était assez souvent. Et quand il y avait ça, je me souviens que j'étais vraiment content. Et j'aimais beaucoup. Et du coup, je suis allé chercher si quelqu'un en avait parlé, vous, qu'on a un festival de littérature italienne quand même. Et j'ai trouvé un passage que j'ai beaucoup aimé de Carlo Emilio Gadda. C'était un écrivain dans le XXe siècle. Un très grand écrivain qui avait une prose très évoluée, très, très détaillée. Il aimait rentrer dans les détails des choses quotidiennes. Et il a écrit un texte sur le risotto à la milanaise. Que si vous voulez, en 30 secondes, je vous en lis un extrait. Et je ne vais pas m'aventurer dans une traduction parce que c'est un très bon texte. Donc, Carlo Emilio Gadda écrit « Risotto patrio ». L'approntamento di un buon risotto alla milanese domanda riso di qualità, come il tipo vialone, dal chicco grosso e relativamente più tozzo del chicco tipo carolina, che ha forma allungata, quasi diffuso. Il chicco, a guardarlo bene, si palesa qua e là coperto dai residui sbrani di una pellicola. Cucinato a regola, dà luogo a risotti eccellenti, nutrienti, ricchi di quelle vitamine che rendono insigni i frumenti teneri, i semi e le loro bucce velari. Il risotto alla paesana riesce da detti risi particolarmente squisito, ma anche il risotto alla milanese, un po' più scuro, è vero, dopo e nonostante l'aurato battesimo dello zafferano. Ma voilà, c'était juste l'introduction.
Alors, on sent qu'il y a, même en ne comprenant pas l'italien, on imagine très bien le fait qu'il y ait besoin d'ingrédients de qualité et du temps aussi. Il faut accorder du temps à la cuisine.
Et c'est ce, moi, je retrouve un goût pour choisir ces ingrédients, comme bien tu le dis, et aussi pour les variétés. La différence entre un risotto, une typologie de riz et l'autre, et prendre un peu de temps pour comprendre mieux quelle qualité de riz fait quelle typologie de risotto, donne quel résultat.
Et alors, toi, tu avais envie de nous partager ta recette du risotto à la milanaise.
C'est la recette. C'est ma recette, c'est la recette de mes parents. C'est pas différent de la recette de beaucoup d'autres familles. Mais en fait, du coup, on réchauffe l'huile, bien sûr, l'huile dans un poêle. On y coupe de l'oignon, très petit, très fin, et on le laisse rosolare. Oui,
rissoler,
peut-être.
En fait, caraméliser un peu.
Oui, exactement. C'est les mots. Parfois, je vais utiliser des mots italiens. Nous, on l'appelle soffriggere, parce que c'est le soffritto, c'est fait avec l'huile, les oignons, parfois de l'ail, et ça fait un peu frire, mais pas tout à fait, parce que c'est une cuisson douce, en fait. Quand l'oignon est devenu un peu souple et un peu légèrement brûlé, mais pas trop, évidemment, on y balance la saucisse. Non, pardon, ça c'est toute recette. J'ai mélangé les câbles. On commence à balancer les riz directement dans la poêle, et sans ajouter de l'eau initialement. L'eau, on l'a préparée à côté dans une casserole et on y a préparé dedans les brodo. Ça peut être avec les bouillons de cuisson ou avec les légumes. Et on les fait bouillir à côté. Mais dans un premier moment, on balance les riz dans la poêle au sec, on pourrait dire. Et on les fait un peu revenir, on les fait toaster jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu transparents, un peu lucides. Et à ce moment-là, quand le poêle est très chaud et les riz commencent à être un peu translucides, on y balance du vin, pas trop. Et en fait, du vin rouge ou blanc, selon les goûts. Moi, je préfère le blanc, mon père préfère le rouge. Ça va faire une grosse fumée et ça va sfumare. Ça va donner un arrière-goût au riz et l'alcool part tout de suite. Et une fois que vous avez fait ça, ben vous êtes prêt pour commencer la cuisson du riz. Le riz aura toasté le suffisamment pour que ça colle pas trop. Et là, vous ajoutez les brodo, les bouillons que vous avez préparés à côté. Petit à petit, vous n'allez pas faire cuire le riz comme des pâtes, en fait. Mais juste pour qu'il y ait un doigt, je dirais, d'eau dans la poêle, et petit à petit il faut l'ajouter, mélanger, et pour faire la version milanaise, du coup quand j'étais petit je l'appelais le risotto giallo, le risotto jaune, on ajoute le safran directement dans le bouillon et ça va donner les goûts et la couleur au riz pendant la cuisson. Et deux petites cuillères suffisent en fait pour donner beaucoup de couleur. Et très important, à la fin de la cuisson du riz, la dernière ajout d'eau. Moi, j'aime beaucoup ajouter un peu plus d'eau à la fin, parce que sinon, ça reste trop sec. Et du coup, là, c'est non, pas liquide, mais un peu crémeux. Et là, j'arrête le feu. Et c'est là qu'on ajoute le beurre et le parmesan. Du coup, sous le riz, encore très chaud, mais sans le feu en dessous. Et ça, on l'appelle mantecatura. Et du coup, on mélange le riz et le beurre avec le riz. Les beurres, le riz et le fromage parmigiano, très important. En fin de cuisson, avec le riz qui est très chaud, du coup, le beurre et le parmesan vont se fondre avec la chaleur du riz. Et c'est tout. Et voilà, après, il faut manger.
Eh bien, vous mangez. Ça se mange en accompagnement ou ça se mange comme un plat
Non, ça c'est une grosse différence avec la France. C'est vrai que vous utilisez beaucoup les pâtes et les riz en accompagnement d'une viande, du poisson. Et moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Mais je m'y habitue un peu petit à petit. Mais non, les riz, ça fait partie des premiers plats. Comme des pâtes, des gnocchi, une lasagne et une soupe aussi parfois. Et après, si tu as encore faim, tu manges quelque chose après, mais pas tout de suite.
Alors, pas tout de suite, mais tu es aussi arrivé avec une recette de dessert. Et moi, j'étais très intriguée parce que on a un peu l'habitude soit des tiramisu, soit des petits gâteaux en accompagnement des petits gâteaux secs. Je crois que c'est encore autre chose que tu voulais nous présenter. C'est pareil, est-ce que ça, c'est une recette qu'on t'a transmise? Est-ce que c'est une recette que tu connaissais de famille? Ou c'est justement dans cette période de réinvestir cette cuisine italienne en arrivant en France qui t'a fait découvrir ce gâteau.
Non, ça c'est vraiment un passage de ma mère. C'est mon gâteau préféré parce que les gâteaux au chocolat de ta mère, c'est le meilleur gâteau du monde. Et je pense que tout le monde a cette phrase en automatique. Mais ça s'appelle la torta paesana. C'est un gâteau, je dirais, ni sec ni crémeux, c'est entre les deux. C'est une consistance, c'est à essayer, je dirais. Mais les gâteaux français, pour moi, sont souvent trop crémeux, alors que celui-là, il est un peu plus consistant. Et la torta paesana, c'est de la région, de la zone de Monza plutôt que de Milan. C'est vraiment une torta paesana, ça veut dire de la campagne. Et c'est un gâteau qui est fait en fait avec les pains secs qui on a oublié dans les placards. C'est un gâteau pour pas gaspiller les choses, les ingrédients. Et donc on fait bouillir du lait. Un litre plus ou moins. On y fait ramollir les pains secs en morceaux. Une fois que ça c'est fait, on y balance un peu quelques biscuits secs aussi. Ma mère utilise les amaretti, qui sont tu donnes l'idée de les connaître aux amandes.
Aux amandes, ouais. Et que, effectivement, c'est ces fameux petits gâteaux dont on accompagne oui. Le café.
Mais dans ces cas-là, on les balance dans le lait avec les pains. On mélange tout avec des œufs, du beurre, des raisins, des pommes de pain et le sucre. Pas trop, hein, n'exagérez pas avec le sucre surtout. Et une fois que tout le mix est bien, pas trop lisse, on n'essaie pas de faire un velouté avec tout ça, on le laisse assez grumeux, un peu brut. On ajoute le chocolat, bien sûr, les cacao, un sachet de cacao. Et après, au four, 50 minutes, 180. Et ça fait un gâteau délicieux, à mon avis. Je l'ai fait goûter à des copains français qui n'ont pas trouvé ça... Je pense que c'est un peu en dehors du goût de la pâtisserie française. Mais sur ça, il y a une distance que je n'arrive pas à rapprocher, malheureusement. Pas encore. Mais j'essaie avec ma fille. Du coup, elle est un peu française, un peu italienne. Je pense qu'elle va grandir avec les deux goûts.
S'il y avait trois ingrédients, alors je crois avoir compris un des trois avec l'huile, mais quels seraient les trois ingrédients dont tu ne pourrais pas te passer dans la cuisine, dans ta cuisine de tous les jours ?
Alors sûrement l'huile, oui.
L'huile d'olive.
Extra vierge, extra vierge d'olive, bien sûr. Italien, mais je sais qu'il y a beaucoup d'huile espagnole, grecque, de Tunisie. Vous pouvez en trouver des biens. Moi, je suggère tout le temps l'italien, mais bon, c'est un peu en partie... Je suis partisan. Les parmesans. Il y en a qui disent dans ma famille que je mets trop de parmesan partout. Et je vois que ça se reflète déjà dans la nouvelle génération. Mais je connais mes limites. Par exemple, pas de parmesan sur les poissons, pas de parmesan sur d'autres fromages. Et voilà, ça marche. Sur tout le reste, ça va très bien. Et un troisième ingrédient, je ne sais pas si les pâtes sont considérables comme des ingrédients. J'ai une petite note à faire au public français. J'ai un message à la nation, comme si j'étais le président. Là. S'il vous plaît, ne faites pas les pâtes blanches que vous laissez cuire et après vous les sortez de l'eau et vous les mettez dans un bol et vous les mettez au centre de la table en attente d'ajouter quelque chose ou que les gens les utilisent comme accompagnement d'un autre plat sans rien y mettre. Il faut à minima mettre du beurre ou de l'huile et idéalement de la sauce aussi, avoir prévu quelque chose pour que les pâtes ne soient pas juste un accompagnement qu'on a oublié à côté et qu'on va jeter à la fin du repas tout ce qui est resté parce que c'était absolument immangeable. Il faut bien préparer les pâtes avec leur belle sauce et ça dépend de la sauce et ça va vous donner des différentes options à chaque fois. Voilà, ça c'était mon ma prière à la France.
En tout cas, merci beaucoup Francesco. On a juste envie de te retrouver pour aussi nous reparler de transmission culinaire. Ça sera super à une autre occasion. Et en tout cas, de savoir un palais mi-italien, mi-français, cette petite fille, comment elle circule entre ces deux traditions-là et qu'est-ce qu'elle, comment son goût se déploie aujourd'hui. Merci Francesco, merci pour ces recettes qu'on n'hésitera pas à essayer à la maison.
Merci à vous, je vous attends toujours, vous êtes les invités, les bienvenus pour un repas italo-français quand vous voulez.
Locale, culturelle, indépendante, étudiante, musicale, Zaï Zaï Radio.